Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, il se passe quelque chose d'inhabituel au Japon, les salaires montent d'un coup et la banque centrale réagit. C'est le système nerveux de notre planète connectée, les câbles sous-marins sont aussi un point de fragilité très sensible. Et puis la bataille des salaires dans le public, on fera le point sur la rémunération des fonctionnaires. C'est l'événement de la nuit sur les marchés financiers mondiaux et il vient du Japon. Une première en 17 ans, Eric Mauban, la banque centrale japonaise relève ses taux directeurs.
Alors elle le fait effectivement très symboliquement. La Banque du Japon va désormais appliquer un taux d'intérêt de court terme entre 0 et 0,1%. Contre moins 0,1% précédemment, elle était la dernière banque centrale du monde à encore pratiquer des taux négatifs. Il s'agit d'une légère amorce, d'une normalisation de la politique monétaire japonaise. Il faut y voir la conséquence de la progression des salaires, qui n'a jamais été aussi importante depuis 1991. Elle a atteint l'an dernier, en moyenne, 5,28%. Rappelons que depuis 30 ans, bien, les salaires ont très peu progressé du fait d'une inflation inexistante. Les syndicats ont longtemps préféré défendre la sécurité de l'emploi plutôt que de tenter d'obtenir des hausses de salaires significatives. Cependant, le déclin démographique du pays commence à changer la donne et à peser sur le marché de l'emploi, mettant les travailleurs en position de force pour obtenir de meilleures rémunérations.
5% de hausse des salaires au Japon, c'est effectivement historique. Eric Mauban, en direct. La Fed, la Banque Centrale Américaine, réunit, elle, son comité de politique monétaire aujourd'hui et demain. Les marchés vont en guetter l'issue. En attendant, le Nikkei gagne ce matin 1,5% à Tokyo. Hier soir, le Dow Jones a gagné 0,20%. Le Nasdaq progressait d'un peu plus de 1%. Le CAC, lui, a reculé de 0,20% à 8148 points. L'euro vaut 1,0867. Et du côté du pétrole, le baril de Brent est à 86$. La star des marchés ces derniers mois, c'est Nvidia, devenue la troisième plus grosse capitalisation boursière du monde grâce à ses composants dont l'intelligence artificielle raffole. Nvidia annonce une nouvelle puce, Blackwell, censée être 4 fois plus rapide que la génération précédente, déjà leader du segment des GPU. À propos d'intelligence artificielle, on se demandait si Apple avançait en interne sur le sujet. On a la réponse, c'est non. Le groupe négocie avec Google pour implanter la solution Gemini de Google sur ses iPhones. Je le disais, c'est un peu le réseau neuronal d'Internet. Les câbles sous-marins qui relient les continents sont à la fois stratégiques pour connecter tout le monde et très fragiles. Ces dernières semaines, les incidents se multiplient. Des câbles sectionnés en mer Rouge ont coupé Internet dans une partie de l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Les rebelles Houthis indiquent cibler particulièrement ces infrastructures. Eric Kioch.
Les câbles sous-marins transportent 8 données sur 10 dans le monde et 17% de ce trafic passe en mer Rouge. Problème avec une largeur d'à peine 27 km et des profondeurs maximales d'à peine 300 mètres. La zone est particulièrement exposée pour les 15 câbles qui s'y trouvent. Ophélie Coelho, spécialiste de la géopolitique du numérique.
C'est une zone historiquement à risque et par ailleurs c'est une zone de conflit avec la guerre à Gaza. Si vous coupez ces infrastructures majeures, il n'y a plus de données qui passent.
Ces câbles d'à peine 10 cm de diamètre sont assez fragiles. Les couper, c'est ralentir, voire suspendre Internet pour les pays qui y sont reliés. Mais il est difficile d'attribuer la récente panne aux rebelles Houthis.
Pour quelqu'un qui voudrait volontairement les endommager, déjà, il faut les situer. Il n'y a pas de carte précise, justement, parce qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse aller les couper.
Il faut ensuite mobiliser des plongeurs expérimentés ou des sous-marins de poche pour les atteindre. Pas sûr que les rebelles yéménites aient ce type de moyens. Mais la seule menace armée des Houthis empêche les réparations, explique le spécialiste du numérique Félix Blanc.
On a estimé à 150 000 $ par jour l'assurance pour les bateaux qui doivent aller sur place. Donc aujourd'hui, aucun bateau s'est porté, disons, volontaire. La meilleure façon de les protéger, c'est de régler les conflits qui sont aux alentours.
Les Houthis n'ont pas besoin d'attaquer ces câbles. Les débris des bateaux qu'ils endommagent sont déjà des facteurs de risque supplémentaires pour ces infrastructures.
Éric Kioch, encore une méga subvention de l'État pour un projet industriel en lien avec la transition énergétique. Cette fois, ce n'est pas pour une usine de batteries ou de semi-conducteurs, mais pour la start-up Life. 149 millions d'euros pour l'installation d'un deuxième électrolyseur près du Havre, afin de produire de l'hydrogène qui servira à décarboner l'industrie dans cette embouchure de la Seine. Les syndicats de la fonction publique unanimes pour demander des hausses de salaire. Ils appellent les 5 700 000 fonctionnaires à faire grève, manifester aujourd'hui. Des écoles, des crèches, des administrations sont fermées ce mardi. Les syndicats dénoncent un effondrement des rémunérations. Alors on va faire le point avec vous, Zoé Pallier. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Syndicats et gouvernement ne sont pas d'accord sur le diagnostic.
Oui, car il y a plusieurs méthodes de calcul. Si l'on regarde, comme le fait le gouvernement, l'évolution du salaire d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, eh bien depuis 10 ans, les rémunérations moyennes progressent plus vite que l'inflation. Mais ce calcul irrite les syndicats, car il intègre les évolutions de carrière, les salaires augmentent parce que les agents changent d'échelon, explique Christian Grolier pour Force Ouvrière. D'autres indicateurs existent, celui du point d'indice par exemple, qui sert de base au calcul du salaire, gelé pendant des années. Il a été revalorisé de près de 5% en 2 ans, ce qui reste inférieur à l'inflation.
Zoé, les syndicats, le gouvernement vont-ils réussir dans ces conditions à se mettre d'accord sur un diagnostic ?
D'un côté comme de l'autre, on insiste sur la nécessité de renouer le dialogue et de s'accorder sur des indicateurs, comme les chiffres de l'INSEE. Ils montrent qu'entre 2011 et 2021, le salaire net moyen pour un temps plein dans la fonction publique a progressé de 2,1%. C'est 2 fois moins que dans le secteur privé. L'objectif des échanges entre syndicats et patronats est justement d'emprunter au privé le principe de négociation annuelle obligatoire pour que soit discutée chaque année une éventuelle augmentation du salaire des fonctionnaires.
Zoé Pallier pour Radio Classique. Les sénateurs veulent simplifier la vie des entreprises et notamment des PME. Ils étudient aujourd'hui une proposition de loi déposée par le républicain Olivier Rietmann pour créer un haut conseil à la simplification. Ça ressemble un peu à un oxymore, un haut conseil à la simplification, chargé d'évaluer l'impact des projets de loi sur les entreprises et rendre obligatoire notamment des tests PME avant l'entrée en vigueur de toute nouvelle norme ou mesure. Revendication de longue date de la CPME. Jean-Yves Duménil est son secrétaire général.
Il y a 2 hypothèses. Il y a l'hypothèse d'une forme d'étude d'impact où on met autour de la table des chefs d'entreprise en leur demandant de réagir à un texte, en imaginant quelles pourraient être les conséquences pour leur entreprise. Et puis, on pourrait aller jusqu'à expérimenter ces mesures pendant quelques semaines dans des entreprises, des PME qui seraient volontaires. C'est la chose la plus pragmatique qu'on puisse faire. Après, le pouvoir politique prendra ses responsabilités, mais au moins, il le fera en connaissance de cause, parce qu'on s'aperçoit trop souvent que certains textes qui sont adoptés sont tout simplement inapplicables pour les entreprises.
Jean-Eudes Duménil de la Confédération des petites et moyennes entreprises. 62 nouvelles étoiles annoncées hier par le guide Michelin, une reconnaissance évidemment pour laquelle les chefs travaillent pendant des années. Être récompensé par le guide rouge, c'est aussi une pression supplémentaire, parfois difficile à gérer, comme nous l'explique Franck Pinet-Rabaroust, fondateur et rédacteur en chef de la newsletter Bouillante, spécialisée en gastronomie.
L'étoile est obtenue par ce qu'on a fait et pas par ce qu'on va faire. Donc, en tant que tel, il n'y a pas d'obligation à investir. C'est plus psychologiquement que le chef se met une nouvelle pression, parce que gagner une étoile, c'est bien. La perdre, c'est pire. Et il y a malheureusement beaucoup de chefs chaque année qui connaissent ça. Donc, du coup, c'est eux qui se posent des contraintes. Et ça passe par de l'investissement dans les arts de la table, mais aussi beaucoup par le personnel, qui en veut toujours plus en termes d'avantages sociaux. Et le restaurant, aujourd'hui, il faut le dire, rentre dans une forme de crise économique, même existentielle, parce que son modèle est remis en cause par les éléments sociétaux actuels.
Et puis, Augustin de Romanet ne sera pas reconduit pour un 3e mandat à la tête du groupe ADP, selon Le Monde. Son 2e mandat se termine en mai. Il espérait être reconduit, il avait indiqué qu'il était disponible. Il est 6h57, dans quelques instants, c'est David Abiquet.